Donc ce qu'il entend par la déclaration d'indépendance européenne, c'est l'idée qu'en 2083, je ne sais plus si c'est la date exacte, peut-être c'est plus tôt que ça. Bon, vous verrez, vous vérifiez. L'Europe sera libérée des autres. Pour parler comme on parle dans Games of Thrones. Vous voyez Games of Thrones? J'ai vu qu'on parlait des autres. Il y avait des autres. Donc ça part de ça. Je ne vais pas faire de lecture. Ah oui, j'ai mis une photo de ça. Et ça revient notamment, ça relie le livre de Stefan Zweig, Le Monde d'hier, et ça essaye, ce texte, de voir pourquoi ça se répète, pourquoi ça revient, qu'est-ce qui se joue là. Voilà. C'est une forme qui est un peu désarçonnante, peut-être, parce que ça s'approche parfois de l'essai, parfois du poème. Voilà. Mais en tout cas, ça raconte ça. Et ça se lit assez vite. J'avais une dernière chose pour finir, parce que je l'avais annoncé, ceux qui ont reçu la newsletter, je ne voudrais pas qu'ils soient déçus. C'est que je ne suis pas seulement écrivain, je fais d'autres choses, ou enfin dire je suis écrivain, mais au sens large. J'écris dans différents espaces, on va dire. Et notamment, là, ce sont des éléments visuels que je vous montre. Donc en rapport juste simplement aux traces que je laisse, puisque moi je suis comme le petit pousset, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nombreux à trouver les cailloux, mais ceux qui trouvent et qui arrivent à me suivre, logiquement ils voient un truc qui se dessine. Mais parfois ils me disent, mais c'est dommage que ce ne soit pas plus nu, mais comme ce sont des formes qui sont un peu déstabilisantes, parce qu'on n'est pas vraiment dans un roman, comme je vous disais, rassurant, ou que les formes se déplacent en permanence, bah, il faut suivre les petits cailloux. Et en fait, j'ai confiance dans les gens qui trouvent les petits cailloux pour voir le chemin que ça décide. Je ne suis pas encore à vraiment écrire le livre qui fait le chemin. Parce que je pense que c'est aussi un peu ça que j'ai aimé, moi, en tant que lecteur. C'est trouver quelque chose qui m'appelle, qui m'envoie quelque chose d'autre. Donc c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Ce ne sera peut-être pas toujours le cas. Il y a peut-être un jour, je vais sortir du bois. Mais pour l'instant, je suis plutôt en camouflage. Et voilà, je peux pas dire pourquoi, mais je pourrais. Donc, j'écris autrement, et j'en viens à un autre événement comme ça, l'histoire qui traverse un peu mon travail, puisque j'ai, comme je vous le disais, je vais quand même vivre une bonne partie de ma vie dans le 21e siècle. Mon idée, c'est de laisser des petits cailloux pour mes enfants, enfin pour mes enfants et les enfants qui demain voudront comprendre ce qui s'est passé dans ce temps-là. Et donc il y a cet événement-là qui un peu nous... Enfin, je ne sais pas si ça nous réunit, mais en tout cas, on s'en souvient. Oui ? Non, peut-être. Vous n'étiez pas dans un abri anti-atomique ce jour-là ? Ok. Et ça, c'est... j'ai pas les éléments là, enfin j'aurais pu vous montrer des images, mais je pense que c'est pas nécessaire. J'ai écrit un opéra qui a été joué en 2013, qui est écrit autour de cet événement-là. Et donc je voulais juste simplement finir par essayer de voir ce que ça changeait dans les temps. Qu'est-ce que ça dit et comment je l'ai entendu et je l'ai lu. Alors il y a... donc l'opéra s'appelle La Chute de Fukuyama. Et le livret est écrit en 6 langues. Donc c'était la deuxième, je crois que en art lyrique, l'arabe était chanté de façon opératique. Dans une œuvre contemporaine, en tout cas, la deuxième fois. C'était un opéra qui utilisait beaucoup les technologies de... Enfin, la vidéo était en 3D, enfin, utilisait des technologies de jeux vidéo. Bon, j'ai pas les images là, mais enfin, si, elles sont sur Internet, on pourra regarder si ça vous intéresse. Mais en bref, voilà l'histoire de l'opéra. Ce sont des gens qui sont bloqués dans des aéroports à travers le monde pendant que ça a lieu. Et qui attendent, qui sont face à leurs écrans, qui sont donc face à l'histoire, qui sont donc En fait, dans la position dans laquelle nous sommes, nous qui n'avons pas de pouvoir, qui ne sommes pas en charge, qui sommes juste là, en quelque sorte, en contrepoint, qui observons, qui sommes témoins, ils sont témoins de cette histoire un peu majuscule qui est en train d'avoir lieu dans un moment où, en fait, tout est absolument indécidable. On ne sait pas qui c'est, quoi, pourquoi, est-ce que c'est accidentel, est-ce que c'est une erreur des tours de contrôle. Et donc j'ai retrouvé, en fait, justement, ces premiers... à un moment donné, le chœur de l'opéra chante le premier flash de CNN qui vaut son pesant d'or en termes de parler pour ne rien dire, puisqu'ils ne savent rien, mais c'est quand même spectaculaire, donc ils en parlent, donc ça a lieu. Ils disent, ils ne cessent de dire it's real. Donc il y a cette chose comme ça de cette tension entre ce qui nous paraît filmique, donc toute cette chose un peu baudrillardienne sur laquelle je ne m'attarde pas parce que pour moi c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, puisqu'on est pour moi un peu après ça. Mais en bref, ça fait partie de ce gimmick des news de l'époque, et oh là là, c'est vrai, on ne sait pas. Et en insistant sur ce c'est vrai, tout en dupliquant l'image, en la reproduisant, en la doublant, et donc en créant cette loupe visuelle qui fait qu'en fait ça déréalise, tout d'un coup, ben non, c'est post-produit, puisque ça se répète, c'est plus live, puisque c'est déjà rejoué. Et moi, je vais avoir cette lecture donc avec ces gens qui sont bloqués, et je vais chercher à savoir à travers cet opéra quel est notre rapport à l'histoire. Une histoire du temps présent, certes, mais une histoire tout de même qui fixe quand même un autre horizon dialectique. J'avais écrit dans un très court article que avant ça, il y avait quelque chose qui émergeait. C'était une dialectique entre quelque chose qui était très orienté pour le capitalisme, l'appel à la démocratie. Donc c'était, j'en parlerai, c'est mon image d'après. Mais... Et puis quelque chose d'autre qui essayait de s'y opposer, qui était déjà le proto-écologisme anthropocène dont on parle aujourd'hui, sur maintenant il faut changer la manière de vivre, sinon on détruit ce monde, quoi. Mais en somme, c'était une dialectique qui avait du sens et qui avait émergé notamment dans des choses où j'avais, dans les lieux où j'avais été assez jeune pour le coup, qui est la forêt Lacandone, pour moi, 1er janvier 1994, avec les combats zapatistes, qui étaient les premiers combats indigènes non marxistes, et qui essayaient de renouer en fait avec des formes indigènes, comme j'ai dit, un horizon indien, c'est-à-dire un autre rapport au monde, qui fait qu'on détruit moins. Un rapport, disons, au monde plus sensé, plus équilibré, et notamment avec toutes ces technologies, enfin toutes ces techniques. Pour dialoguer avec les éléments non humains, pour faire parler la nature, pour voir comment ça dialogue au-delà de simples cadres politiques modernes humains. Donc ça émergeait avant, et puis ça arrive, et ça pose une autre dialectique, qui est une dialectique qui est très vite posée en termes de civilisation, de culture, de religion, et dans laquelle dont on n'arrive pas à sortir, quoi. Ça reste là, c'est partout. Je vous ai parlé d'Anders Behring Breivik avant, enfin, cette idée de la reconquête, enfin, des croisades, le politique qui utilise ça, enfin, tout ça. C'est pas du tout l'objet de l'opéra. L'opéra s'intéressait pas du tout à ça, ça c'était simplement pour vous fixer le contexte, parce que mon objectif, évidemment, c'est de déjouer, comme je vous disais, ces scénarios qui nous sont contés de façon très mainstream, très majoritaire, très violente, pour essayer de voir autre chose. Et il y a un personnage, je reviendrai à cette image après, qui est lui, donc qui s'appelle Fukuyama. Mais ça vous dit aussi comment je comprends la charnière 20e, 21e siècle. Fukuyama, c'est celui qui, après la chute du mur de Berlin, est devenu un peu le gourou du capitalisme démocratique, puisqu'il disait, en somme, à ce moment-là, et dès, en fait, avant... C'est pour ça qu'il a été traité comme prophète, parce que son article sort avant la chute du mur de Berlin, nous dit l'horizon de l'avenir, c'est la démocratie, le marché. Je vous passe sur les soubassements philosophiques de ce qu'il fait, simplement pour que vous sachiez, il se dit hegelien, cogévien, il dit en somme à cette époque-là, on va vers l'état de droit indépassable, l'état de droit c'est la fin de l'histoire, et la fin de l'histoire, c'est la démocratie et c'est le capitalisme. Basta. Et, accessoirement, vous pouvez faire ce travail mental maintenant en vous disant, cette fameuse phrase, je ne sais plus de qui elle est, si c'est de Zizek ou d'Olivier Cadio, mais en tout cas, elle dit en somme, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Bien. Donc, cette phrase-là, elle est un peu là, avec ce personnage, qui annonce la fin de l'histoire. Et ça, il le fait avant que ça n'ait lieu. D'accord ? Et simplement, il avait vu la guerre de Yougoslavie comme un résidu. Hein? Mais en tout cas, il ne s'est jamais vraiment dédié. Il a toujours tenu à son hypothèse jusqu'à encore aujourd'hui. Il l'amende un tout petit peu. Il faut savoir que lui fait partie du groupe des néoconservateurs qui va très clairement se mettre derrière l'administration Bush après les attentats du 11 septembre, venir en aide théorique à ça, faire partie de ceux qui vont parler du democracy making, donc l'idée que les États-Unis et une politique étrangère des États-Unis peut créer des démocraties un peu partout, refaire des frontières, et ce qui va conduire à un certain nombre d'errances et de guerres, et à un grand nombre de morts. Et donc, il est en quelque sorte un des théoriciens de la nouvelle droite américaine. Maintenant, il se récuse, parce qu'à l'époque de Trump, il a un peu du mal à suivre. Mais, voilà. Mais en tout cas, il amorce bien le mouvement, il l'accompagne. Donc l'opéra raconte ces gens bloqués, et notamment lui, dont je fais un personnage de l'opéra, La Chute de Fukuyama, qui est bloqué dans un aéroport au Japon. Il est d'origine japonaise, comme vous l'aurez noté, il est né aux États-Unis, ses parents étaient japonais, ses parents étaient en prison dans les camps au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui d'ailleurs, à mon avis, chez lui, entre parenthèses, dénote, pour ceux qui s'intéressent à cette figure-là, mais c'est une figure très importante parce qu'on la retrouve dans plein de figures d'intellectuels, un syndrome de ce qu'on appelle la surassimilation.